tous les commerciaux vous vendent leurs solutions de sécurité, peu importe la crèmerie dans laquelle vous allez. Hein. Ils vont tous vous dire, ça c'est le dernier logiciel, il fait de l'IA, blockchain, mon cul sur la commode, c'est magnifique, avec ça vous avez la paix, signez-la, c'est un montant à 6 ou 7 chiffres annuels, et n'oubliez pas de payer la licence, et on vous enverra un intégrateur. Cette vision est fausse, techniquement fausse, et ne permettra jamais d'endiguer ce problème-là.
Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
Salut tout le monde et bienvenue, c'est un nouvel épisode des éclaireurs du numérique avec toujours les mêmes, c'est-à-dire Damien Douani. Salut Damien.
Mais bonjour Bertrand.
Salut Fabrice Epelboin.
Bonjour Bertrand Lenôtre.
Comment ça va Bertrand Lenôtre ?
Il va bien, la voix un peu dans les chaussettes, mais c'est chacun son tour en fait. La dernière fois c'était toi Damien. On va parler de cybersécurité un tout petit peu aujourd'hui. On va parler de Logbit. Il y a un vrai sujet là. Logbit, ça c'est un truc, ça nous a fait marrer depuis quelques jours de façon assez intense et c'est pas fini, j'ai l'impression. Donc il se passe plein de choses. Et pour en parler, il nous fallait quelqu'un qui maîtrise vraiment les sujets cybersécurité. Et ça tombe bien, il est cybersécurité by design, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il a été fabriqué comme ça, quasi par ses parents. Il s'appelle Dominique Blob. Salut Dominique.
Bonjour Bertrand, bonjour à tous.
Consultant en stratégie cybersécurité et transformation numérique, donc déjà on est dans le sujet, fondateur du Hackerspace de Liège, parce que tu es belge, personne n'est parfait, ou c'est le contraire.
Au contraire, ouais.
Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Parce que parfois, on préfère être belge ou même suisse, carrément, osons le mot de temps en temps. Et puis, directeur fondateur de Dumble Company, ça c'est ton activité personnelle, et tu fais un MBA à l'EGE, l'école de guerre économique, sur le ransomware de façon générale. C'est à peu près ça ce qu'on peut dire de toi, Dominique ?
Alors oui, cofondateur du Hackerspace de Liège. Je ne suis pas tout seul dans cette aventure.
D'accord.
Et un executive MBA en cybersécurité dans lequel j'évolue sur des travaux de ransomware, effectivement. Sinon, c'est assez bien résumé.
Bon, avant qu'on te demande de parler de Logbit, notamment, et de ce qu'on a perçu de ça, un petit tour de piste avec Fabrice et Damien sur cette histoire de Logbit, parce qu'on entend parler, on en parle souvent dans le podcast de ces groupes de hackers depuis des années et des années. Logbit fait partie de ceux qui sont extrêmement connus, évidemment. Mais là, ça nous a fait tilt quand on a vu cette information qui est arrivée il y a quoi, une dizaine de jours à peu près, Fabrice, hein, de ça y est, ils ont réussi à les mettre à plat.
Et alors non, ils n'ont pas réussi à les mettre à plat, c'est, on va justement parler de ça.
Non, c'était l'information telle qu'elle était présentée en tout cas.
Mais on avait déjà parlé de Conti et c'est la deuxième fois qu'un énorme gang, enfin c'est plus qu'un gang, c'est un écosystème, se fait, pas attrapé par les flics parce que Conti, ils avaient explosé suite à la guerre en Ukraine. Là, pour le coup, ils se sont fait rattraper par la police, et pas par n'importe qui, par à peu près toutes les polices, j'allais dire occidentales, mais même plus que ça. Il y avait des Japonais. Vraiment, le monde entier s'est mis contre eux.
France, Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Japon, Australie, Canada, Suède. C'est pas mal déjà.
Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de monde pour poursuivre ces malfrats. Et en pratique, on peut se poser raisonnablement la question de est-ce que ça a été si efficace que ça, parce que ils sont toujours vivants, parce que ça reprend, et puis parce que à chaque fois qu'il y a ce genre d'explosion au sein du ransomware, on en apprend énormément sur la façon dont ça évolue, la façon dont cette menace change de jour en jour. Et là, les nouvelles sont pas bonnes, parce que Dominique va nous en parler dans le détail, mais très clairement, le ransomware as a service, c'est-à-dire où très clairement, il y a des fabricants d'armes qui ensuite ont des affiliés qui vont attaquer les entreprises avec du ransomware. Et puis, il y a aussi des gens qui blanchissent l'argent. C'est tout un écosystème. Et c'est beaucoup plus compliqué de mettre à mal un écosystème que de mettre à mal une organisation où là, à partir du moment où les chefs sont en prison, ça s'arrête. Là, ça va être beaucoup plus complexe.
D'autant que leur code avait fuité il y a un an déjà. Donc déjà, il y avait des petits qui s'étaient répandus un peu partout. Hein, on va en parler.
Leur code avait fuité. Ça aussi, il faudra qu'on en parle. Du coup, on est sur de l'armement qui se copie-colle. Hein, donc tout le monde peut s'improviser bandit de grand chemin, vu qu'ils ont désormais une partie de l'armement. On est sur des affiliés qui sont plus ou moins compétents, et ça, c'est un gros changement, et ça a des conséquences assez lourdes hein, sur l'impact que peut avoir le ransomware dans une entreprise. Donc on est sur une menace qui évolue, et c'est l'occasion, à chaque fois ce genre d'aventure est l'occasion de faire un point sur cette piraterie des temps modernes, qui change quand même à une vitesse assez impressionnante. Certains groupes fournissaient aussi de l'armement qui permettait d'exfiltrer les données, puis chiffrer les données, pour ensuite demander une rançon, et bien souvent demander une seconde rançon pour ne pas divulguer les données. Et puis c'est quelque chose de nouveau, apparemment, parfois bousiller le système informatique à l'insu, et du coup laisser un champ de ruines, quoi qu'il arrive, quelle que soit la rançon derrière soi.
Et le groupe Logbit, qui porte le même nom donc, que ce rançongiciel, lui prend un pourcentage de ce qui a été perçu dans ces rançons en fait, qui ont été faites. Damien, un petit mot avant qu'on donne la parole à Dominique.
Moi, je trouve quand même que c'est vachement bien fait quand on y réfléchit comme modèle économique. Non, mais blague à part, quand on l'entend comme ça, c'est quand même fou. Ce système fait vraiment de se dire, bah, y a une plateforme, il y a un ransomware as a service, et puis nous, on touche un pourcentage, et puis après, allez-y, hein, faites vos petites affaires. Quand vous savez qu'aujourd'hui, en plus... les ransomware, ça touche énormément d'entreprises, de grosses entreprises, mais énormément aujourd'hui de petites entreprises, TPE, PME ou collectivités, hôpitaux, qui très souvent sont des gens qui sont soit n'ont pas les moyens de se sécuriser, soit n'y ont pas pensé, tout simplement. On se rend compte de l'état, de la capacité de nuisance que peut avoir un mécanisme comme celui-là, qui est, avec des guillemets, bien sûr, assez simple, finalement, quand on y réfléchit, dans sa mise en œuvre.
Il n'y a pas de récurrent, comme diraient les investisseurs. C'est ça qui manque dans le modèle. En fait, il n'y a pas de récurrent. Il faudra un abonnement de tous les affiliés.
Ah, si tu proposes la plateforme, c'est comme Facebook, hein, finalement. C'est toi qui récupères le pognon. Hein.
Sinon, moi, je n'investis pas d'argent dans ton histoire. Il n'y a pas de récurrent. Bon, l'opération Chronos, c'est comme ça que ça s'est appelé. Cette opération menée par un nombre colossal de pays. Dominique, est-ce que ça avait de la gueule, cette opération Chronos, au départ? Vraiment, est-ce que ça avait une chance de produire quelque chose de cohérent?
Alors, il faut voir l'objectif qui était visé par cette opération. Si l'objectif était de dire « on a une hydre en face de nous, on va couper toutes les têtes de l'hydre et on va se débarrasser de Logbit », il n'y avait malheureusement que très peu de chances que ça atteigne cet objectif. Ça, je pense qu'une grosse majorité des acteurs du monde de la cyber et qui se spécialisent, ou en tout cas qui avancent dans le domaine de la sécurité des ransomware, seront d'accord pour le dire. Si l'objectif était un peu plus stratégique de dire « on est capable de vous viser, on est capable de démanteler, on est capable de vous faire perdre de l'argent, on est capable de vous exposer, vous n'êtes pas... où que vous soyez, à l'abri qu'on vienne vous chercher », alors là, effectivement, on peut dire que l'opération a rencontré un certain succès. Ça reste relativement mitigé, mais c'est ce qu'on peut en dire pour les objectifs connus, en tout cas, des autorités vis-à-vis de cette opération Chronos. Il y a aussi un énorme effet qui est que les autorités des différents pays, on les a cités au début, ont démontré qu'elles étaient capables de travailler ensemble sur le temps long,
oui, ça,
dans des
nouveau,
coopérations
ça.
Internationales. Mmh. Alors, il n'y a pas encore tous les pays autour de la table, hein, on pourra en reparler, mais des pays qui sont plus favorables à ce genre d'opérations ne participent pas encore activement. Néanmoins, on remarque que d'un point de vue scène internationale, il y a une coopération assez importante et assez intéressante.
D'ailleurs, est-ce que cette coopération, qui est assez inédite, elle prouve un éventuel, on va dire, peut-être, je ne sais pas si on peut dire mise à niveau, mais est-ce que c'est un moyen aussi de démontrer une certaine expertise, justement, dans ce jeu du gendarme et du voleur?
Alors, le fait que le grand public entende parler de cette coopération internationale de grande ampleur, effectivement, c'est peut-être un petit peu nouveau. Il faut quand même se dire que différents pays travaillaient déjà ensemble par le passé. Donc voilà, il y a énormément de techniciens, il y a énormément d'échanges d'informations, donc on ne part pas de rien non plus. Je pense que chaque pays a ses forces de frappe techniques et législatives pour avancer sur ce sujet. J'estime que les annonces, l'annonce faite par les États-Unis il y a de cela quelques semaines ou quelques mois, disant qu'ils allaient s'intéresser de beaucoup plus près au ransomware et qu'ils allaient réaliser une coalition internationale pour traiter le sujet, a permis de mettre en exergue au grand public ces faits. Mais je pense que les compétences techniques, en tout cas, étaient déjà présentes. Je ne pense pas qu'avec cette opération Chronos, on ait fait un gap technique ou technologique important vis-à-vis des différentes entités en place.
Juste un mot sur les résultats de l'opération des arrestations. Il y a eu des mandats d'arrêt internationaux, il y a eu 200 portefeuilles de crypto-monnaies qui ont été saisis, 34 serveurs qui ont été démantelés et plus de 1000 clés de déchiffrement qui ont été saisies dans le monde. Voilà, c'est à peu près les chiffres qui ont été donnés de façon officielle. C'est pas rien sur le papier quand même. On dit que Lockbit, même s'ils ont réouvert leurs activités, une partie en tout cas, il y a un nouveau site depuis le 23 février, est quand même un tout petit peu bancal là maintenant. Est-ce que c'est le cas ou pas ?
Alors non, de par la structure même dont Fabrice parlait en intro, il faut bien comprendre que Lockbit tel qu'on l'entend, il s'agit d'un fournisseur de services à destination d'affiliés. De la même façon que vous utilisez un service pour gérer vos mails, de la même façon que vous utilisez un service, enfin vous en utilisez des centaines chaque jour, la différence entre Lockbit et ceux que vous utilisez tous les jours, c'est que la visée de Lockbit est peut-être un tout petit peu plus pénalement répréhensible. Le fait est que les affiliés qui, selon moi, sont vraiment la menace importante, ne sont à l'heure actuelle que fort peu impactés. Lockbit en tant que tel, on parle de programme, on parle de serveur, on parle de déployer un logiciel, tout comme vous pourriez faire une mise à jour de vos ordinateurs et autres. Alors oui, on est dans un cadre un petit peu plus technique, on est dans un cadre où il faut des serveurs, etc. Mais on parle de logistique qui, somme toute, à l'heure du cloud, à l'heure des locations internationales de ressources informatiques, n'est pas très coûteux à remettre en place, à redéployer et à remettre sur pied. Donc d'un point de vue strictement technique, l'attaque portée aux infrastructures de Lockbit a été résorbée sur une dizaine de jours et à mon avis va simplement continuer à se résorber petit à petit et l'opération pourrait être redémarrée avec de nouvelles failles, avec de nouvelles enquêtes, etc. On pourrait recommencer ce genre d'opération par exemple.
Au final, en dehors de démontrer la capacité de coopération internationale et de s'engager dans un petit jeu de trolling avec Lockbit, tout ça n'aura pas servi à grand-chose. On a quand même appris pas mal de choses sur l'évolution de ces affiliés. Donc pour être clair, hein, on a le fabricant d'armes, Lockbit, et puis des gens qui, en quelque sorte, loue ses armes pour aller faire des attaques et partage avec avec Lockbit le butin de la rançon. Et la grosse évolution que toi tu as observée, Dominique, c'est la façon dont ces affiliés, qui sont vraiment ceux qui mènent les attaques, ont évolué et pas forcément dans le bon sens en termes de professionnalisme.
Alors effectivement, on peut prendre un cas qui date de 2021, si ma mémoire est bonne, où le système de santé irlandais a été touché par un ransomware. On vous passe les détails de la négociation, etc. Et au moment de recevoir les informations pour déchiffrer le système, l'Irlande s'est rendu compte qu'en fait, il fallait passer sur chacun des postes et faire des manipulations techniques sur chacun des postes afin de pouvoir récupérer son système. Pas de chance pour eux, on parle de 90 000 postes qui ont été infectés, et donc il faut prendre ces petites mimines et passer sur 90 000 postes pour exécuter des informations techniques. À l'époque, l'Irlande avait dû faire intervenir du personnel de l'armée, parce que c'était, selon eux, les seuls qui étaient disponibles en assez grand nombre et qui étaient capables d'exécuter une procédure technique et de lever la main si jamais on ne rentrait pas dans le cadre exact de ce qui devait se passer. Plus on avance dans l'écosystème des ransomware as a service, plus un employé malcontent qui s'en va et qui dit « moi je fais ça, je fous ça en l'air tel quel et je m'occupe pas des répercussions, je m'occupe pas de faire les choses techniquement dans le bon ordre », est possible. Plus des gens qui se disent « oui, moi je ne sais pas quoi faire de mes grandes vacances, je vais aller utiliser une vidéo YouTube pour scanner Internet et trouver une faille et déployer mon ransomware as a service à tous les endroits, un petit peu n'importe comment, il y en a bien un qui va finir par mordre à l'hameçon et ça va bien se passer ». En fait, tout ça est rendu de plus en plus facile grâce au ransomware as a service, grâce aux armes, comme dit Fabrice, fournies par Lockbit et par d'autres. Hein. Lockbit n'est pas le seul, c'est le plus médiatisé en ce moment, mais il y a bien sûr bien d'autres acteurs. Donc l'accès à la possibilité de rançonner quelqu'un étant de plus en plus grandissante, tout le monde peut y avoir de plus en plus facilement accès, on retire de plus en plus les barrières techniques, eh ben, il se fait qu'on va avoir, et on a, et on constate d'ailleurs, une partie, alors c'est pas la plus grosse partie, mais une partie de systèmes qui sont piratés, sur lesquels on déploie du ransomware, mais sur lesquels les outils sont techniquement un peu bancals, ou les procédures sont pas tout à fait respectées, etc. Et donc, on va se retrouver avec des systèmes où, même si on paye, même si on reçoit la bonne clé, la bonne procédure pour déchiffrer le système, vu que ça a été mal fait par l'attaquant, en fait, le système est tout à fait corrompu et ne pourra pas revenir. Si je prends un exemple un tout petit peu technique, vous avez des machines virtuelles qui tournent sur des serveurs. Si vous lancez un script pour éteindre la machine virtuelle et que vous lancez votre ransomware au même moment, vous n'avez pas attendu que la machine virtuelle soit bien éteinte. En fait, l'idée, c'est que vous allez chiffrer quelque chose qui est en cours d'exécution et vous allez corrompre un système. Quand vous allez vouloir déchiffrer avec toutes les bonnes procédures, le système était corrompu au moment de chiffrer. Il y a de l'amateurisme, il y a une non-professionnalisation, et donc là, par contre, vous êtes foutu. Si vous n'avez pas de backup, vous pouvez vous arranger avec tous les gangs de la Terre, votre système est corrompu. Et ça, effectivement, c'est quelque chose auquel je ne m'imaginais pas encore en 2020-2021. Je ne pensais pas du tout qu'on évoluerait vers ça.
Tu pensais que ça n'allait pas évoluer dans ce sens-là? Pourquoi? Parce que on va dire qu'il y avait, je vais mettre des énormes guillemets, une sorte d'éthique dans le ransomware.
Non, professionnalisme.
Dans cette notion de professionnalisme, justement, voire même de capacité à rendre ça finalement assez accessible, et donc faire en sorte que tout un chacun puisse s'amuser à faire ce qu'il a envie de faire, si, comme tu le disais, c'est un ancien salarié qui était conduit, qui se dit bah, « tiens, je vais faire la politique de la terre brûlée ». On est là-dessus ?
Il y a des exemples qui vont vers ça. Ce n'est pas l'extrême majorité, mais il y a des exemples qui vont vers ça. Pour parler d'éthique en deux mots, il y a quand même une chose vers laquelle il faut se pencher, c'est que pour certains affiliés, ils se disent effectivement ce qu'on fait n'est pas bien, mais en fait, en face, ils veulent pas jouer le jeu de la sécurité informatique, et au final, je suis un pentester et je vends un service, et voilà. C'est pas rare dans des négociations suivant une demande de rançon, que l'on voit des idées qui disent si vous payez un peu plus, je vous explique par où je suis passé, comment colmater, etc. Ça, c'est en 2020, c'est un petit peu l'idée qu'on voyait de cet écosystème où des gens se disaient ouais, je suis un peu un pirate des temps modernes, ils n'ont rien compris à l'informatique, ils ne veulent pas jouer avec les règles, moi je leur explique que ce qu'ils font, c'est pas bien, qu'ils sont vulnérables, et c'est normal que je reçoive en contrepartie de l'argent. J'ai vraiment échangé avec des gens qui avaient ce système de pensée-là et qui croyaient réellement. Aujourd'hui, les ransomware as a service et leur explosion, on est sur une logique vraiment capitaliste dans le sens économique du terme, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire rentrer de l'argent en masse, et il y a plusieurs acteurs sur le marché. Donc le but du jeu n'est plus d'aller vers quelque chose de techniquement fiable, le but du jeu n'est plus d'avoir quelque chose qui est industrialisable avec un haut niveau de qualité, le but du jeu, c'est d'aller prendre un marché existant qui fait de l'argent avant que quelqu'un d'autre n'aille le chercher. Et ça peut, entre autres, faire avancer le fait que, peut-être que les outils ne sont pas tout à fait bons, peut-être que les gens qui opèrent essaient d'aller au plus vite, peut-être que des gens moins qualifiés arrivent sur le marché aussi. Et ça, peu importe les grands du marché, et peu importe la facilité d'exécution aujourd'hui d'un ransomware sur un système d'information d'entreprise.
Ça veut dire que le capitalisme sauvage est à l'œuvre auprès de ces gens-là, comme il est à l'œuvre de façon générale dans la société, et que finalement, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que la société produit de la nouveauté, produit de la technologie, et il y a un capitalisme sauvage qui vient détruire ça de façon complètement déstructurée, et on a du mal à lutter contre ses propres démons, finalement.
C'est ce qu'on voit le plus avec les ransomware as a service, avec les grands groupes comme Logbit. En fait, c'est une société parallèle, certes de l'ombre, mais c'est une société qui fonctionne comme les sociétés que l'on peut croiser au jour le jour autour de nous, comme un groupe quelconque. C'est-à-dire que vous avez des contrats de travail, vous avez des salaires, on engage des développeurs, il y a un système de RH. Tout ça, on l'observe. Il publie pas des comptes à la Banque Carrefour Entreprises chaque année, mais on observe la reproduction d'un système économique et d'un système sociétal tel qu'on peut le voir du côté légal de la face, avec les mêmes avantages, mais donc également avec les mêmes inconvénients. Et donc, ce capitalisme un peu sauvage peut en faire partie.
Il y a un autre aspect du ransomware qui est très peu connu, parce qu'on parle des rançons à plusieurs millions de dollars dans des très grandes multinationales ou des hôpitaux, parce que ça fait énormément de bruit et ça peut provoquer potentiellement des drames. Mais il y a toute une partie complètement inconnue du ransomware, qui sont le ransomware vis-à-vis des petites PME, vis-à-vis du mec qui a un petit site e-commerce en PrestaShop et qui a un peu tardé à faire son update parce qu'il était en week-end et manque de peau pendant le week-end. Il y a eu un scan, son site est arrivé parmi 100 000 autres sites qui étaient aussi en week-end et qui n'ont pas fait leur update avant de partir en week-end, et tout le monde s'est retrouvé chiffré. Ça, c'est vraiment une partie du ransomware qu'on connaît très peu.
Alors, qu'on connaît peu, mais qu'on voit... Je vais laisser la parole à Dominique, mais... qu'on voit énormément, enfin c'est véritablement, de ce que j'en ai vu ces derniers temps, ayant travaillé sur le sujet, que c'est véritablement cette partie-là qui est en train d'être investiguée, parce que finalement c'est la partie un peu facile de l'histoire. On peut toucher beaucoup de boîtes, on va peut-être pas ramener autant que si on touchait une grosse boîte, mais c'est peut-être mieux de faire 10 fois 5000 balles que une fois 50 000. Ces montants sont bien sûr totalement faux, mais oui.
À multiplier par 10
oui,
ou 100.
Voilà, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on a surtout des gens qui n'y connaissent rien et qui, en plus de ça, étant des petits professionnels, vont se dire on va pas s'intéresser à moi, donc je mets pas les protections nécessaires. Quand bien même ils sauraient le faire, parce qu'en plus cette dimension-là, c'est que très bien souvent, ils sont livrés à eux-mêmes et ils n'ont aucune idée de comment faire, et il y a très peu de prestataires qui savent les accompagner. Est-ce que, Dominique, c'est véritablement aujourd'hui une grosse tendance ?
Alors, d'un point de vue chiffre, c'est quelque chose auquel on n'a pas accès. C'est-à-dire que si vous allez trouver des journalistes ou des personnes qui investiguent au jour le jour les ransomware, ils vont vous dire oui, on en entend parler régulièrement, mais si on suit des portefeuilles de transactions, si on suit le flux de nouvelles liées au ransomware, on est incapable de donner une estimation réelle, que ce soit en termes de nombre d'attaques, en termes de taux de réussite ou en termes de propagation. Par contre, ce qui est clair, c'est que de façon générale en cybersécurité, les TPE et les PME sont un petit peu oubliés. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui n'ont pas forcément de gros moyens, dont l'informatique est un outil et non le cœur du business. Et c'est un outil qu'ils utilisent afin de créer de la valeur par ailleurs, que ce soit une chaîne de boulangerie, que ce soit une école de danse, que ce soit peu importe. Ces gens n'ont pas pour vocation à être informaticiens, n'ont pas forcément les moyens d'investir là-dedans. Et je pense même que l'extrême majorité ne se pose même pas la question de « oui, on va pas venir me chercher ». Ils ignorent simplement tout cet écosystème parce que ce n'est pas leur, parce qu'ils n'évoluent pas là-dedans, et parce qu'on parle effectivement de transformation numérique et de transition numérique. C'est un grand enjeu stratégique à un niveau étatique, à un niveau des grands groupes, mais c'est peut-être un petit peu loin des préoccupations des PME et TPE qui aujourd'hui essaient de continuer à créer de la valeur dans leur domaine d'expertise initiale, en fait.
Je voyais effectivement dans les très peu de chiffres, on a une étude qui a été faite par un assureur qui s'appelle Hiscox en 2023, qui justement montre une explosion des cyberattaques, notamment pour les entreprises. Alors bien sûr, pour les grandes entreprises aussi, hein, tout le monde est au même niveau. Mais on va dire que pour les petites qui étaient peu ciblées, on voit que ça augmente énormément. Et donc oui, ça prouve aussi que tout le monde désormais est possiblement dans la ligne de mire. Pour des gens qui n'y connaissent rien et qui entendent parler pour la première fois via ce podcast de cette histoire-là, qui se disent « mais c'est hallucinant », qui est quelque chose qui soit, on va dire, aussi structuré, est-ce qu'il existe d'autres groupes, est-ce qu'on sait s'il existe d'autres groupes de ce type-là, ransomware as a service, avec des affiliés et un système de reversement?
Alors, sachant que ce n'est pas un groupe, hein, c'est vraiment un écosystème. Hein, on n'est pas dans un groupe uni, c'est un véritable petit écosystème.
Oui, c'est un écosystème, tout à fait. Mais est-ce qu'il existe des concurrents, des écosystèmes concurrents? Est-ce qu'il existe des... vraiment, est-ce que pour ceux qui écoutent ça pour la première fois et qui découvrent ça, est-ce qu'on a véritablement une sorte d'immense économie derrière ça?
Alors oui, il en existe plein d'autres. Tous ne fonctionnent pas forcément sur le modèle de ransomware as a service, mais on peut parler dans les exemples assez connus. On a eu Hive, qui était assez populaire, on va dire, en 2022. On a eu DarkSide, qui lui était un petit peu plus orienté sur les entreprises et sur les systèmes de machines virtuelles, donc tout ce qui est OSXI, etc. À l'époque, donc c'est déjà un petit peu plus orienté entreprise. On a eu Reveal, qui a eu le tristement célèbre record de faire une demande de rançon de 10 millions de dollars. Donc oui, il y a un écosystème grandissant et réel, mais encore une fois, j'aimerais vraiment essayer d'insister là-dessus. On se focalise sur un fournisseur d'armes, d'accord, pour reprendre l'analogie de Fabrice, en oubliant qu'on est dans le monde du numérique. Vous prenez un réel fournisseur d'armes, quand il fournit une arme, il doit la produire, ça lui coûte de l'argent, il y a une chaîne de production, c'est compliqué, etc. Dans le monde du numérique, en fait, l'arme, elle a été produite une fois. Sa duplication a un coût marginal, voire nul. D'accord ? Ce qui fait que c'est pas important, enfin, c'est moins important de s'attaquer aux fournisseurs d'armes qu'à ceux qui réceptionnent ces armes pour les utiliser. Et c'est là où je pense qu'il y a un véritable enjeu. Plutôt que de se concentrer sur les créateurs et fournisseurs d'armes, il serait beaucoup plus judicieux de pouvoir suivre et de mener le même genre d'opération que celle de Chronos, mais sur les affiliés, sur les gens qui achètent ces armes, qui les utilisent et qui se déplacent d'un gang à un autre, par exemple. C'est-à-dire qu'on s'imagine souvent, quand j'en parle, et même avec des experts qui font de la sécurité, des gens s'imaginent que tous les matins, je vais pointer chez Conti, je vais pointer chez Logbit, etc., et qu'en fait, je travaille exclusivement pour eux. Si le but dans ma vie en tant qu'affilié, c'est de faire de l'argent et d'avoir un maximum de répercussions, je peux travailler à la fois avec Conti, avec Logbit, avec un autre. En fait, je suis au centre de cette carte interactive. Je ne suis pas en périphérie comme on peut se l'imaginer. Et ça, les modèles de CTI tels qu'ils existent actuellement ont un petit peu du mal à le répercuter. Et peut-être qu'on engage beaucoup de finances et beaucoup de forces en visant pas exactement, en tout cas selon moi, les bons acteurs.
Donc il faut taper les entrepreneurs du hacking, en fait. Ceux qui cherchent des clients, des outils différents, on a compris ça. Et il y a tout le marché donc, de ce hacking de bas étage, en fait, qui se fait. Parce que j'ai entendu parler récemment d'un hacker français, un jeune hacker français qui a réussi à remonter un peu la filière d'un réseau chinois qui venait d'une école. Et apparemment, le code était dégueulasse. Ça venait vraiment d'une école. Ils devaient avoir 14 ans, vu leur discussion à peu près. Et ils attaquaient des failles de WordPress, tout simplement. Juste pour se faire les mains, comme ça, sur les add-ons de WordPress, qui sont pourris pour certains d'entre eux. Et ils se faisaient les mains comme ça, mais de façon assez massive. Et en fait, ça devient une démocratisation totale du grand n'importe quoi. Comment on fait pour lutter contre ça, d'autant qu'il y a aussi le code de Logbit qui a été balancé dans la nature, donc qui a fait des petits dans tous les sens. Ça devient compliqué là quand même d'aller taper tous ceux qui utilisent ça maintenant.
Il y a quasiment du dropshipping du...
Ben oui, un peu.
Du ransomware.
Bientôt, ça sera sur Amazon.
C'est ça, exactement.
Alors, on a déjà des Amazon, on en rigole, mais on a déjà des Amazon pour acheter des bouts de code qui permettent de faire du ransomware, etc. On parle régulièrement du dark web, ça fait peur avec des marketplaces, mais ce genre de choses existe et ne coûte vraiment pas cher. Même de façon publique et légale, vous allez sur GitHub, qui est une espèce de site internet qui permet d'agréger un réseau social pour développeurs, on va dire ça ainsi. Vous avez déjà des bouts de code qui permettent de faire du ransomware, etc. Tout ça existe déjà. Il y a quelque chose qui, pour moi, il est important de désacraliser, c'est que technologiquement parlant, en termes de code, en termes d'infrastructure, etc., on n'est pas sur des choses extrêmement importantes en termes de compétences. Aujourd'hui, si vous voulez rentrer sur un forum de hacking un petit peu illégal, on va vous demander de faire vos preuves, on va vous demander d'écrire un code ou l'autre. C'est pas du tout rare de voir des bouts de code pour faire du ransomware. On est sur quelque chose qu'un élève en troisième année de licence va pouvoir développer, alors pas avec un grand niveau de sophistication, mais ça va pouvoir être fait. Ça ne demande pas des compétences de folie que de pouvoir mettre en place ce genre de choses. Ça, c'est pour moi quelque chose qu'il faut extrêmement désacraliser. Le deuxième point, et la question que tu as posée, c'était de se dire, tiens, on a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Certains institutionnalisent cela, Tu parlais effectivement d'un youtubeur, enfin d'un jeune youtubeur pour le coup, qui a expliqué avoir dépanné un ami, j'étais dans un joueur de poker de mémoire,
ouais.
Qui expliquait avoir dépanné un ami et qui s'était fait hacker son WordPress et d'être rentré un petit peu dans la spirale, de regarder ce qui se passait. Et il a deux, trois explications assez intéressantes où au final il se rend compte qu'il est dans quelque chose d'institutionnalisé où les gens en fait se forment et ont des objectifs de cible réelle. Ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre que l'on va gagner en détruisant l'ennemi. En fait, c'est une guerre que l'on va gagner en sensibilisant nos acteurs à une hygiène du numérique, à de la sécurité informatique. Et donc, c'est des investissements qu'il va falloir faire dans le tissu économique local, enfin français, européen, de toute personne qui utilise le numérique au jour le jour pour générer de la valeur au sein de son entreprise, c'est-à-dire presque toutes les entreprises. L'Union européenne avance dans ce sujet avec des réglementations. On a de plus en plus d'acteurs qui se proposent d'accompagner des TPE, des PME. On a des bourses au niveau de l'Europe qui permettent de se former un petit peu aux hygiènes numériques, etc. Mais le cœur de la bataille, il est là. Le cœur de la bataille, il est sur, en fait, c'est un outil que je dois maîtriser, que je ne dois pas subir, que je dois pouvoir mettre à jour, pour lequel il est nécessaire d'avoir un budget. Ce n'est pas quelque chose que j'achète et qui va décaisser avec le temps comme on pourrait acheter une voiture. À un moment, c'est bien, on a acheté la voiture, il faut l'entretenir, cette voiture. Ben, ça va être exactement pareil pour les outils du numérique. Le cheval de bataille, il est là. Si on s'imagine, et malheureusement, énormément d'acteurs vont le faire, dans le milieu, en France, on dit la sécurité n'est pas un produit. Or, tous les commerciaux vous vendent leurs solutions de sécurité, peu importe la crèmerie dans laquelle vous allez. Hein. Ils vont tous vous dire, ça c'est le dernier logiciel, il fait de l'IA, blockchain, mon cul sur la commode, c'est magnifique, avec ça vous avez la paix, signez là, c'est un montant à 6 ou 7 chiffres annuels, et n'oubliez pas de payer la licence et on vous enverra un intégrateur. Cette vision est fausse, techniquement fausse, et ne permettra jamais d'endiguer ce problème-là. La faille principale est une faille humaine. En tout cas, dans la chaîne de l'outil informatique, la faille la plus facile à exploiter, c'est la faille humaine. L'informatique évolue tous les jours. On met à jour nos systèmes extrêmement régulièrement. Il y a des portes, il y a des failles de sécurité qui apparaissent et qui disparaissent continuellement. On ne pourra pas taper sur tout le monde et on ne pourra pas se protéger de tout. Donc il faut se former, il faut allouer du budget, il faut comprendre ce qu'on utilise, et c'est par ce prisme-là qu'on pourra en fait être assez sécurisé que pour se dire il vaut mieux que l'attaquant il aille voir ailleurs parce que chez moi c'est un petit peu trop compliqué.
Il faut faire du réarmement collectif, c'est dans l'air du temps.
Autre élément intéressant dans le ransomware, c'est que les rançons sont par définition en crypto. Et la crypto, on peut la suivre à la trace. Et il y a toute une partie de l'activité de la lutte contre le ransomware qui consiste à regarder où va l'argent. Et contrairement au système bancaire traditionnel, là, pour le coup, c'est totalement transparent. Tu peux nous éclairer un peu là-dessus, Dominique ?
Alors oui. En fait, grossièrement, si vous entendez parler de crypto et de Bitcoin par nos politiciens ou par certains journalistes, un peu vulgairement, c'est pour des putes et de la coke, ça ne fonctionnera jamais, c'est de l'anonymat, c'est du dark web, c'est sale, voilà. Il faut surtout pas aller là-dedans et en plus, c'est que des gros méchants vilains. Bon, quand on se penche un petit peu plus sur les chiffres, on se rend compte qu'on a moins de transactions liées à des actes illégaux sur les crypto-monnaies type Bitcoin que ce qu'on peut avoir dans le réseau bancaire classique. La raison, elle en est simple, c'est que par construction, on va prendre Bitcoin parce que énormément des transactions se font via ce réseau-là, et c'est le plus connu de tous. Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le lien entre le compte en banque, pour vulgariser, et le nom de la personne qu'il y a derrière. On peut voir ça un peu comme un compte numéroté suisse, si on veut filer une analogie. Mais toutes les transactions, tout le livre de compte est absolument public, ouvert et accessible à tout le monde. En partant de là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez eu votre ordinateur qui s'est fait chiffrer. Vous êtes victime d'une attaque dont par ransomware, et vous avez à l'écran, veuillez payer 100, 1000, 10 000, 1 million, suivant qui vous êtes, de dollars en bitcoin à telle adresse. Et bien en fait, en connaissant cette adresse, on peut littéralement se dire, ok, cette adresse, elle a reçu un virement, mais est-ce qu'elle en a reçu d'autres ? Une fois que quelqu'un a payé la rançon et que l'argent est parti à telle adresse, où a été cet argent après ? D'où vient cet argent ? Est-ce que on a des transactions qui passent d'une adresse à une autre et qui amènent à une adresse que nous connaissons déjà, qu'on peut déjà relier au monde réel ? Typiquement, vous avez des exchanges, des espèces de banques qui font le lien entre des euros, des dollars et la crypto-monnaie, qui sont des sociétés réglementées, qui ont des obligations de KYC, KYB, donc des obligations proches du monde bancaire, de savoir, de connaître son client, de connaître son business, de pouvoir lier un compte virtuel à une entité réelle, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Donc tout ça est traçable, tout ça est écrit dans un grand livre de comptes. Et comme dirait une enseignante à l'EGE, l'humain est un animal de répétition. D'accord ? L'humain fait toujours les choses par répétition. Et il se trouve que chacun a ses petites habitudes. Quand vous êtes logbit, quand vous êtes un acteur quelconque et que vous recevez de l'argent, vous allez avoir une tendance régulièrement à faire transiter un petit peu cet argent, mais à tout ramener sur un seul et même portefeuille, une seule et même adresse, qu'on appelle grossièrement un portefeuille de consolidation. C'est-à-dire que pour chacune de vos victimes, vous avez donné une adresse différente, certes, mais vous, par facilité, d'ailleurs, faudrait pas trop l'ébruiter, mais techniquement, ça n'a aucun sens, mais enfin, par facilité, vous ramenez tout sur une seule et même adresse. Cela laisse une trace. Et sur ce portefeuille de consolidation, par exemple, une fois que vous avez suivi une victime et que vous avez remonté le flux financier follow the money jusqu'à ce portefeuille de consolidation, vous pouvez analyser les transactions entrantes sur ce portefeuille et remonter vers d'autres victimes qui ne sont pas forcément connues. Donc vous pouvez avoir accès à, ok, ce portefeuille-là, il a reçu une fois 100$ d'une transaction, mais je vois qu'il a reçu aussi 998 autres transactions de 100$. Je peux remonter ces transactions, voir d'où elles viennent, donc je peux découvrir de nouvelles victimes en tant qu'enquêteur, par exemple. Pareil, une fois que cet argent sort et qu'on essaye de l'échanger vers le monde réel pour avoir des dollars, des euros, ou pour le dépenser sur Alibaba ou peu importe la plateforme qui permet un paiement en crypto-monnaie, vous allez faire un lien avec le monde réel. Et donc ce monde réel qui est soumis à des lois, eh bien en fait vous allez pouvoir aller demander, judiciairement parlant, et faire un lien avec le monde judiciaire. Tiens, en fait, Amazon, Alibaba, pizza.fr, peu importe, je vois que vous avez reçu tel jour, telle heure, une transaction en crypto-monnaie. Sur requête d'un juge, je souhaiterais savoir quel client vous avez livré, à quelle adresse, quel jour, quelle heure, etc. Et donc là, vous pouvez recouper avec le monde réel et essayer de récupérer des informations dans le vrai monde de la vérité véritable sur les gens qui dépensent cet argent.
Donc c'est beaucoup plus traçable que dans un système bancaire traditionnel. Il y a une série qui s'appelle D'argent et de sang là, qui marche bien en ce moment sur la TVA carbone, où avec toutes ces sociétés écrans et ces banques partout qui sont absolument véreuses pour une grande partie d'entre elles. Vous regardez ça, puis vous regardez aussi la série Mafia et banques sur Arte, et vous dites finalement les cryptos, c'est beaucoup plus éthique comme endroit que le système bancaire traditionnel.
Oh, c'est même pas une question d'éthique, c'est du code, c'est totalement transparent. Oui. Totalement transparent.
C'est donc ça crée une forme d'éthique par design d'une certaine façon.
Ouais. Ça rend la vie plus compliquée. C'est clair que s'il y avait moyen de faire du ransomware avec des billets de banque, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des cas de figure où ça se faisait en billets de banque, bah c'est clair que ce serait infiniment préférable pour les pirates d'exiger des billets de banque. Beaucoup plus simple.
Ah bah oui, bah là pour le coup, du liquide, mais enfin là, compliqué quand même.
Ou même un virement sur un compte en banque. Il serait beaucoup plus facile de blanchir et de faire disparaître dans la nature qu'un virement sur un wallet crypto.
Faites-moi un petit PayPal ou un petit Lydia et puis voilà.
Alors on rigole, mais je veux dire, la crypto-monnaie, ça date de 2009. Avant, on avait déjà des arnaques cyber avec des demandes d'argent, donc il existait déjà en fait hein, des paiements. On a tout un système de mules où on envoyait de l'argent sur un compte en banque d'une pauvre personne qui avait répondu à une annonce en disant bah voilà, vous allez juste recevoir de l'argent, faire des transferts et vous allez recevoir un salaire. Tout ça existait déjà avant. Il faut bien se rendre compte que La cyber n'a rien inventé de nouveau. On a adapté technologiquement parlant des arnaques et des systèmes qui existaient déjà bien avant. Si je vous prends un exemple très simple, et de mémoire, mais ma mémoire est défaillante, c'était en Sicile. Les premières attaques équivalentes aux attaques DDoS, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la cyber, se faisaient bien avant Internet. C'est-à-dire qu'on ciblait une entreprise. On se renseignait sur le nombre de lignes téléphoniques existantes dans cette entreprise. Je vous parle d'une époque où le système était fait de telle sorte que tant que deux personnes n'avaient pas raccroché un appel téléphonique, la ligne était occupée et n'était pas réutilisable. Eh bien, le système mafieux consistait à dire « Cette entreprise, elle a 45 lignes téléphoniques. Je vais appeler 44 fois en même temps, donc je vais saturer 44 lignes, je ne vais pas raccrocher. Et sur la seule ligne restante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler, je vais attendre qu'on décroche et je vais dire « Bonjour messieurs, vous avez besoin de votre téléphone pour fonctionner. Vous avez 45 lignes, j'occupe les 45 lignes. Si vous voulez que je raccroche de mon côté, veuillez faire un virement, veuillez apporter de l'argent, veuillez amener des croissants à ma femme, peu importe. L'idée de la rançon est présente et date à une époque où Internet n'existait pas, où les réseaux étaient extrêmement peu développés et où on était sur de la simple ligne téléphonique.
Je suis sûr que si on remonte à la Grèce antique, on peut trouver des trucs. J'adore ce truc-là.
Ben, le cheval de Troie, déjà, c'est une façon de rentrer dans un système de façon cachée. Ça ressemble exactement à ce que font les hackers. Hein.
Le cheval de Troie était un ransomware. Je pense que ça a de la gueule.
C'est un bon titre quand même. Hein. Bon, allez, as-tu un dernier mot là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de particulier, Fabrice, Damien ou même Dominique, quelque chose qui te tient à cœur?
Moi, j'ai une question peut-être sur juste à venir très brièvement sur. Les tendances, on va dire ça comme ça. Est-ce que, question totalement, on va dire volontairement néophyte, est-ce que l'usage de l'IA, qu'on voit énormément se développer aujourd'hui, qui devient aussi un outil très commun aujourd'hui, est-ce que l'usage de l'IA peut avoir un impact, quel qu'il soit, sur ce qu'on est en train
Alors,
de voir ?
Alors, l'actualité nous montre que oui. Puisque on a eu une attaque de type arnaque au président, qui a mené à un virement de plusieurs millions de dollars en toute bonne foi de la part d'un employé.
25 millions.
Où, l'histoire étant qu'un employé un peu suspicieux, d'ailleurs, au démarrage, hein, a reçu une première demande lui disant « Ben voilà, je suis directeur de ton groupe, tu vas devoir faire un virement parce que c'est un petit peu urgent, etc. Mais ne t'en fais pas, hein, on est au courant que tu dois respecter des critères de sécurité, donc c'est quand même un petit peu confidentiel. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire une visio, et dans cette visio, en fait, il va y avoir tout le comité exécutif de la société. Tu nous as déjà vus, tu as déjà entendu nos voix, etc. Et tu vas participer à cette réunion, on va t'ajouter à cette réunion, et donc tu vas pouvoir t'exécuter et faire ce virement, c'est d'une importance stratégique pour notre société. » Bon, la personne accepte, rentre dans la visio, on a une visio qui dure un certain temps, où tout se passe bien, en fait, et le virement est effectué. Il s'avère que la visio était intégralement du deepfake. Donc on était intégralement sur des modélisations par IA des différents membres du board exécutif en termes d'image, en termes de voix et en termes d'échange vocal. Donc il est certain que l'IA, qui est un sujet en soi, va participer et va être utilisée à des fins malveillantes. Parce que en fait, on va l'utiliser pour générer de l'argent, et le monde du ransomware génère énormément d'argent, tout simplement. Donc la réponse est oui, l'IA va être un facteur important dans ce développement-là, et dans le développement de la cybersécurité de façon générale, d'ailleurs.
Mais à ce niveau de qualité d'arnaque, on a presque envie de dire bravo, parce que là, ça devient quand même du génie, là, de faire quelque chose comme ça, franchement.
Oui,
un acte artistique, quoi, carrément.
Ah oui, là je pense que oui. Enfin, c'est oui. Là on peut se dire qu'aiment les mecs, ils ont levé le niveau, quoi. Ils ont eu une idée quand même. Et non, ils ont cherché à faire le truc. Eh ben, il va falloir faire des. Donc je suggère d'investir dans un bon vieux disque dur, hein, pour faire des
backups. Un bon calepin avec un stylo.
Aussi. Et puis... les deux trucs, t'as le disque dur pour faire tes sauvegardes locales, hein, et ton bon vieux stylo, parce qu'on sait jamais. Voilà.
Oui, de façon générale, pour toute société. Petite, moyenne, grande. La première chose, c'est effectivement les backups. On le dira jamais assez. Faites des backups. Faites-vous entourer pour faire des backups correctement. C'est pas parce que vous avez copié-collé vos fichiers sur un disque dur que vous avez mis à la cave que vous avez des backups. Donc des backups, ça se teste régulièrement. On va rechercher un vieux backup, on essaye de le remettre en place pour voir si on arrive à récupérer nos systèmes. Ça, c'est la parade la plus importante et la plus efficace face au ransomware. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose à moindre coût. La première étape vraiment intéressante et vraiment importante, c'est miser sur les backups. Ça coûte un peu d'argent, vous préférez mettre un petit peu d'argent là-dedans et en plus avoir des backups plutôt que de payer une rançon et vous dire, même si vous la payez, ça se trouve vous êtes tombé sur un petit con et qu'en fait il a tout cassé en arrivant, vous n'avez pas de backup, vous avez payé et vous récupérez pas vos systèmes. Donc faites des backups, entourez-vous, renseignez-vous, il y a plein d'informations gratuites disponibles sur internet, il y a des podcasts comme celui-ci qui vont vulgariser le sujet, il y a en France l'ANSSI qui est extrêmement prolifique en termes de petits guides pour accompagner des gens dans les SI, que ce soit des gros SI ou des plus petits SI qui donnent des guides d'hygiène numérique, c'est d'assez bonne qualité. C'est vraiment un travail qu'on... L'ANSSI est vraiment extrêmement réputé comme agence, même en dehors de la France, sur ce sujet-là. Ils interviennent.
Ouais, ils font du très bon travail. Ouais. Ils ont des choses vraiment très bien.
Je vous recommande vraiment d'aller faire un tour par là, d'investir dans vos backups et surtout de comprendre que les données, en fait, c'est la valeur stratégique de votre entreprise quand vous êtes exposé sur Internet, quand vous avez du logiciel et autres. La data est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est valorisable, ça vaut de l'argent pour vous aujourd'hui, peut-être pour vous demain, mais ça vaut aussi beaucoup d'argent pour d'autres personnes qui voudraient l'acquérir. Donc protégez-la et n'hésitez pas à mettre de l'argent dessus. Quand vous vous baladez en Ferrari, vous ne garez pas votre voiture sur le parking du Auchan ou de n'importe quel autre magasin. Vous louez bien généralement un garage, peut-être même sécurisé et autres. Votre donnée, c'est un petit peu une partie de votre Ferrari dans le monde du numérique, en fait. Donc protégez-les et n'imaginez pas que ça n'arrive qu'aux autres.
Amen.
Et ben, ce sera le mot de la fin. Faites des backups.
Faites des backups. Et je rajoute juste un autre site qui est vraiment pas mal, qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, qui est en fait, en gros, quand on est victime, on va dessus et il y a tout un mode opératoire qui est plutôt bien fichu, qui permet de savoir un peu les premiers gestes de secours. C'est plutôt bien fichu et l'ANSSI, bien sûr, a trempé là-dedans.
Et puis, un dernier mot, c'est pas le boulot du provider cloud de faire des backups nickel et de les entretenir. C'est votre boulot à vous. À moins que ce soit dans le contrat spécifiquement, mais en général, ce n'est pas fait par défaut. Voilà.
Je me permets d'insister, vu qu'on parle d'adresses intéressantes, Europol a mis en place un outil qui permet d'accompagner en fait certaines personnes qui ont été attaquées en disant bah voilà, régulièrement on arrive à démanteler par exemple Logbit, ici on a récupéré des adresses, des méthodes de déchiffrement, etc. Il y a un site No More Ransom qui est mis en place et soutenu par Europol, donc vraiment allez le voir, c'est important. Et un autre point, on ne l'a pas abordé, et le sujet est vraiment énorme, mais celui-ci a vraiment sa place pour moi. Si vous êtes victime d'une attaque de ransomware, signalez-la, manifestez-vous. Ça ne se fait pas assez. On a peur pour son image, on a peur pour tout un tas de choses. C'est vrai, c'est important, pesez le pour et le contre. Mais comprenez bien que même si c'est pour une arnaque à 100 balles d'une petite PME, etc., le fait de se manifester, le fait de remonter les informations en votre possession permettent de tisser des liens, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple avec la blockchain, permettent d'avoir davantage d'informations, permettent d'avoir davantage de chiffres. En fait, ça permet de nourrir tout l'écosystème de défense. En plus de ça, pour des opérations comme celle-ci, où le FBI a quand même mis la main sur quelques dizaines de millions de dollars, c'est une agence qui ne va pas mettre cet argent dans sa poche. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir redistribuer en fait cet argent aux gens qui ont été arnaqués de façon totale ou partielle, suivant ce qui a été récupéré. Mais donc, manifestez-vous. Manifestez-vous quand ça arrive. N'oubliez pas qu'en France, pour tout un tas de sujets, il y a même une obligation légale, hein, s'il y a une atteinte à des données privées, par exemple. Voilà, il y a d'autres cas de figure dans lesquels vous êtes obligé de vous manifester. Mais même si vous ne rentrez pas dans ces cas de figure, manifestez-vous. C'est important pour vous. C'est important pour l'écosystème de défense qui essaye de se mettre en place. Ça peut amener à de bonnes surprises par la suite, que ce soit sur des poursuites légales, que ce soit sur une restitution d'argent dans une semaine, un mois, un an. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Et C'est vraiment quelque chose qui permettra à tout un système de défense de continuer à avancer, d'avoir des chiffres plus précis. Enfin, encore une fois, c'est vraiment important. Si vous retenez trois choses de tout ce que j'ai baragouiné ici dans notre échange, c'est 1. Faites des backups, 2. Renseignez-vous, et 3. Manifestez-vous, même s'il n'y a pas d'obligation légale à le faire.
Merci pour la leçon, Dominique Bleu. C'était bien cool de t'avoir avec nous dans ce podcast.
Merci beaucoup, c'est très très bien de rappeler des choses qui sont peut-être évidentes, mais qui en fait ne le sont absolument pas.
Merci beaucoup, Dominique.
Merci à vous.
Merci Damien. Dominique. Merci Fabrice. Damien, tu as 10 secondes pour faire la petite retape finale de chaque podcast, vas-y.
Vous avez adoré ce podcast, eh bien écoutez, on serait très heureux d'avoir votre petit commentaire sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, voire même des étoiles, hein, dans nos yeux bien sûr, et puis surtout sur votre Apple Podcast, votre Spotify, votre Deezer, ce que vous voulez. Ça nous fait plaisir, ça nous fait remonter dans les classements, et puis ça permet de mettre en avant la qualité des échanges comme ceux qu'on a eu aujourd'hui. Merci encore Dominique.
Merci à tous, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
Les éclaireurs du numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Douany et Fabrice Eppelboin. Vous avez aimé ce podcast ? Retrouvez-nous sur leséclaireursdunumérique.fr.